Théâtre, musique, danse, cirque, art plastique arrivent dans les oreilles des Saint-Sernois sur leur web radio.
Nous avons la chance d'être entourés d'artistes, alors nous, élèves de SDTMD Théâtre du lycée Saint-Sernin de Toulouse, nous avons décidé de les mettre en lumière.
Mais l'art ne s'arrête pas au portail du lycée. Des planches aux coulisses, de l'écriture à la mise en scène, nos chroniques éclairent les différentes ficelles du spectacle vivant.
Les salles sont fermées, mais les oreilles restent ouvertes. Pour nous, la radio, c'est une bonne raison d'enlever le masque.
Mais surtout, une bonne occasion de rallumer quelques projecteurs sur une culture dans l'ombre du Covid.
C'est avec l'aide de Madame Grillon, professeure de théâtre et d'histoire des arts, et Monsieur Bon, professeur documentaliste du lycée, que ce projet a vu le jour. Merci à eux.
Pour cette première émission, Mila animera la chronique « Noir sur le sexisme » avec la présentation de Monique Grégo.
Nous enchaînerons avec la chronique « Lumière sur les arts des Saint-Sernois » animée par Adèle, où elle rencontre la violoniste Yuna.
Ensuite, allumons les coulisses avec Bertille, qui s'entretiendra avec l'éclairagiste Amandine Jérôme.
Et pour conclure cette première émission, nous finirons sur la chronique d'Augustine sur les voies du théâtre contemporain. Radio Sous les Projos,
l'émission du spectacle vivant
sur Web Radio Saint-Sernin. Comme promis, le rideau s'ouvre sur la chronique Noir sur le sexisme animée par Mila. Monique Grégo est une dramaturge femme, et oui, je vous assure, ça existe, ayant écrit plus de 50 pièces pour le théâtre. Elle est une des seules femmes de sa génération en France, on se demande si ce n'est pas la seule, à être actrice, autrice, metteur en scène et à la direction d'une compagnie théâtrale, et tout ça à la fois. Monique est une grande voyageuse et amène avec elle ses précieux spectacles. Nombre de ses pièces ont visité l'Europe, le Japon, les pays du Maghreb et même les États-Unis. Notre artiste a joué dans de nombreux films et dans plusieurs programmes télévisés, la dernière apparition en date étant dans un épisode de la série Candice Renoir en 2014. Ses créations naissent à l'Athénée, à Beaubourg, au Petit Odéon, sur plusieurs scènes nationales et un peu partout sur le continent. Elle monte également de célèbres textes, écrits par de célèbres dramaturges, dont Molière, Marivaux, Beckett et plein d'autres. Elle est en convention avec le ministère de la Culture, avec sa compagnie théâtrale de la mer qu'elle co-dirige avec ses acolytes Yves Ferry, Madeleine Comparo et Claude Guénière. Avec cette compagnie, elle met en scène en 2012 au festival Molière, La nuit juste avant les forêts, pièce écrite par Bernard-Marie Coltès, un des dramaturges français les plus joués dans le monde. Monique souhaitait absolument mettre en scène ce texte, ayant été profondément touchée par l'écriture et par l'humour qui s'en dégage à la première lecture. La pièce nous parle d'un homme errant et désespérément solitaire au milieu d'une jungle urbaine interprétée par Yves Ferry. Mais malgré le fait que notre dramaturge monte des spectacles dans des salles, elle ne se contente pas de faire que ça. Elle anime des ateliers d'écriture, de théâtre évidemment, de paroles, de lecture et de vidéos. Ses activités, elle les exerce un peu partout, dans des foyers, des rectorats, des écoles conservatoires, des maisons d'arrêt, des lycées, des collèges, des appartements, des lieux d'accueil, des prisons et même dans la rue. Bref, partout où l'humain peut parler, bouger, s'exprimer, Moni nous amène son art. Mais avant d'avoir une carrière si prestigieuse, elle a bien commencé quelque part. Notre actrice s'est formée au conservatoire de Sète, où elle est née en 1948. Elle est ensuite étudiante à l'IET, Institut d'études théâtrales à Paris. Elle débute professionnellement dans les années 1970 au Théâtre national de Strasbourg. Moni a la réputation de toujours créer de nouvelles pièces, chacune différente des autres et toujours avec un style varié. Un de ses nombreux écrits, au commencement était Les Ombres, publié en 2009 aux éditions Lamartin, raconte l'histoire d'une femme écrivain. Cette femme entretient une relation particulière avec les mots qu'elle couche sur papier. Tantôt elle en est amoureuse, tantôt elle les déteste. Cependant, les mots font naître des histoires, des ombres, des musiques, des chimères, des monstres. Cet écrivain joue donc à faire disparaître et réapparaître cette bulle d'imaginaire que les mots créent autour de nous depuis notre enfance. Une autre pièce également, Un rêve qui veille, publiée en 2013 aux éditions Écriture théâtrale Grand Sud-Ouest, nous présente trois grandes figures féminines, Antigone, Médée et Io, et une grande question, qui sont-elles aujourd'hui ? C'est dans un langage moderne et une écriture contemporaine que Monique Grégo met en scène ces trois femmes faisant face avec énergie aux injustices de l'amour, de l'exil et de la guerre. Pour conclure, nous nous devons de nous intéresser aux femmes artistes de ce monde Et Monique Grégo est un merveilleux exemple du talent féminin à notre disposition. Alors faisons noir sur le sexisme, car l'art n'a ni limites, ni genre.
Radio Sous les Projos,
l'émission du spectacle vivant,
sur Web Radio Sancernin.
À présent, dans la chronique « Lumière sur les arts des Sancernois », Adèle s'entretient avec une musicienne de la section S2TMD.
Projecteur sur les arts des Sancernois. Découvrons la filière S2TMD qui met en lien le lycée Sancernin et le conservatoire. En effet, les élèves de cette voie technologique ont des cours aménagés, ce qui leur permet de libérer du temps pour leur passion et de combiner pratique, culture et histoire de leur art. Ils sont donc de futurs musiciens, danseurs, et cette année, cette filière ouvre ses portes aux élèves du conservatoire de théâtre. Il y a donc aussi de futurs comédiens. Les élèves se destinent donc à une poursuite d'études artistiques dans leur domaine, bien sûr. Accueillons tout de suite Yuna, qui est en seconde TMD musique, qui a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Yuna, bonjour. Alors en SDTMD, tu joues de quel instrument et depuis combien de temps ?
Alors moi je joue du violon depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait maintenant 9 ans.
Tu l'as commencé au conservatoire ?
Non, j'ai commencé le violon dans une école de musique à Toulouse qui s'appelle Musique et Ondes. Et ensuite j'ai passé le concours pour entrer au conservatoire.
C'est la première fois que tu es en cours aménagé ou tu l'as déjà été au collège ou au primaire ?
Alors oui, j'étais en fait en horaire aménagé au collège, donc à Michelet Annexe, et j'y suis depuis la 6e.
Comment t'as trouvé ou qui t'a conseillé la filière S2TMD ?
Alors vu que j'étais en horaire aménagé au collège, les profs nous en avaient déjà parlé. Et en plus de ça, je connaissais déjà des gens qui y étaient.
Ça t'a attiré tout de suite ?
Oui, ça m'a tout de suite intéressée, ouais.
T'avais déjà envie, plus jeune, d'en faire ton métier ?
Alors quand j'étais petite, pas vraiment. Et à partir de la 6e, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir envie d'en faire mon métier.
Ça t'a fait peur de t'engager dans une voie à déboucher uniquement artistique ?
Alors c'est vrai qu'au début j'hésitais un peu, notamment par rapport à ça, mais je me rends compte que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et j'avais envie de faire quelque chose que j'aime, donc maintenant non, ça me fait absolument pas peur.
Oui, donc t'as pas l'impression que ça va te fermer des portes ?
Oui, bah, c'est aussi une question que je m'étais posée au départ, et puis comme je l'ai dit, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et pour l'instant j'ai pas vraiment d'autres ambitions professionnelles, donc je me dis que même si plus tard je change d'avis ou j'ai tout simplement envie de changer, je peux toujours reprendre des études, donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète.
Ah d'accord, mais la charge de travail à fournir déjà au conservatoire, elle doit être importante. Est-ce que t'arrives à combiner ton art et ta scolarité ?
Alors c'est vrai que la charge de travail au conservatoire, elle est assez importante, mais le fait que les horaires soient quand même très bien aménagés, on finit tôt la plupart des jours de la semaine, donc ça permet de pouvoir bien travailler l'instrument. Donc non, je dirais que depuis le début de l'année, franchement, c'est plutôt bien. Après, je sais qu'il y a certaines semaines, par exemple, on a plus de travail que d'autres. Donc la charge de travail au lycée, en tout cas, elle est assez inégale d'une semaine à l'autre. Et puis quand on va être en période d'examen, ça va être aussi plus compliqué. Mais globalement, pour l'instant, je trouve que ça va très bien.
Et sinon, avec la situation actuelle, la culture a vraiment subi un arrêt brutal. Est-ce que ça t'inquiète ?
Oui, forcément, je trouve ça hyper inquiétant. Après, je me dis que quand les théâtres, les cinémas vont réouvrir et que les concerts auront lieu normalement, je pense que les gens auront encore plus envie de sortir et d'en profiter comme avant.
Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En quoi consiste ton aménagement d'horaire ?
Alors, pour alléger notre emploi du temps, on a pas mal de matières en moins. Donc, par exemple, on n'a pas de physique-chimie, d'SNT, d'SVT et d'EMC. Donc ça permet de terminer plus tôt et du coup de pouvoir faire notre pratique artistique. Et ensuite, le mardi matin, on n'a pas cours et à la place, on a cours en fait au conservatoire. Donc par exemple, moi j'ai cours de violon et de solfège.
Et du coup, comme tu as des matières en moins, est-ce que tu en as qui se rajoutent par rapport à ta filière ?
Oui, alors on a une matière qui se rajoute, donc c'est culture et pratique du théâtre ou alors de la musique ou de la danse en fonction de ce qu'on fait au conservatoire. Et ça, c'est 3 heures par semaine qu'on a cette matière.
Et pour finir, tu conseillerais cette filière à de futures secondes ?
Oui, ça c'est sûr. Je trouve que c'est une filière très enrichissante et très intéressante. Après, il faut qu'ils s'assurent de vouloir en faire leur métier plus tard et d'être passionnés par leur pratique musicale.
Merci Yuna d'avoir répondu à mes questions.
Radio Sous les Projos,
l'émission du spectacle vivant
sur Web Radio Sancernin.
orientons les projecteurs sur le métier d'éclairagiste dans la chronique de Bertie « Allumons les coulisses ».
La salle s'éteint, la scène s'allume, le spectacle commence. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il là, juste derrière, dans l'ombre du théâtre? Que cache la salle plongée dans le noir? Nombreux sont les métiers derrière un spectacle que l'on ne voit pas, nous spectateurs. Alors cette fois-ci, allumons les coulisses. Et aujourd'hui, pour notre première émission, c'est Amandine Jérôme qui a accepté de répondre à nos questions, merci à elle, et qui nous éclaire sur son métier d'éclairagiste. Éclairagiste, nom commun, spécialiste dans l'installation de l'éclairage, technicien qui s'occupe de l'éclairage d'un spectacle. Merci Larousse. Et Amandine Jérôme, vous définiriez ça comment, le métier d'éclairagiste?
Un éclairagiste est effectivement la personne responsable des lumières d'un spectacle. Donc c'est celui qui installe le matériel et qui manutentionne en gros le matériel lumière pour les théâtres. Et après, il y a les éclairagistes donc de compagnie, qui sont les créateurs lumière, les concepteurs lumière des spectacles, qui pensent, inventent les lumières. Donc, ils vont aussi les installer, hein, bien sûr, mais ils réfléchissent l'installation en fonction aussi de ce qu'on appelle la conduite lumière d'un spectacle. Et cette conduite lumière, c'est ce qu'on mettra en place ensuite dans la réalisation du spectacle en enregistrant ça sur nos ordinateurs ou des consoles lumière. Donc, tous les tableaux, les uns après les autres, les enchaînements. Donc il y a le tableau en général avec les lumières et les intensités de chaque lumière. La façon dont elles sont réglées aussi, les lumières qui influencent le tableau. Mais il y a aussi les temps de montée, de descente des lumières, la façon dont on passe d'un tableau à l'autre, tout ça, ça fait partie de la conduite lumière du spectacle. Et ça, c'est ce qu'on appelle, celui qui va réaliser cette conduite lumière, c'est ce qu'on appelle le régisseur lumière, c'est celui qui fait la régie lumière.
Vous interagissez avec qui? Avec quel autre métier?
Avec tous. On interagit avec le metteur en scène, qui lui-même interagit avec les comédiens sur scène. Donc, les comédiens vont se placer en lumière aussi. On va déterminer ensemble des zones avec des ponctuels. Donc, il y a des endroits des fois très précis. Des fois, on va prendre qu'un visage. Donc, là, on a intérêt en tant que comédien d'être ultra précis sur le placement sur scène. C'est pas évident de sentir la lumière. On interagit avec les autres corps techniques. À mes débuts, chacun avait son poste. Il y avait le régisseur lumière, le régisseur son, le régisseur vidéo, le régisseur plateau. Aujourd'hui, on devient un petit peu régisseur couteau suisse. On fait un peu tous les postes. Donc, en règle générale, enfin, s'il y a une grosse production où il y a tous les métiers représentés, je vais interagir avec la vidéo, avec le son, parce que nos montées vont se faire ensemble. Mais de manière générale, par les temps qui courent, je me retrouve à faire tous ces postes. Donc j'interagis avec moi-même, sur la technique en tout cas.
Et vous exercez ce métier sous quel statut?
Intermittent. Du spectacle. Avec une nuance, c'est sur toutes les périodes de création, je suis cadre intermittent, mais déclaré en tant que cadre. En tournée, je suis régisseur, donc intermittent de base.
Si vous décriviez une journée type dans votre métier?
Il n'y a pas de journée type dans mon métier. Alors, il y a les journées peut-être type de création. Alors, quand on est en résidence de création, j'aime bien avoir le plateau pour moi, parce qu'il faut laisser du temps de plateau aux comédiens et aux metteurs en scène, et parce que la technique, c'est toujours très long. C'est du temps de conciliation avec le metteur en scène, on réfléchit ensemble, on cherche des solutions, du temps où on va justement enregistrer les lumières et voir chacun des tableaux. Donc on a besoin des comédiens sur scène qui font la doublure lumière et qui se placent et qui font des déplacements, tout ça. Donc ce temps-là, il est nécessaire pour la technique, mais il faut qu'il soit le plus réduit possible, sinon on épuise tout le monde au plateau. Donc ce que je fais, moi, c'est que souvent je viens le matin, tôt, et j'ai le plateau pour moi, justement pour travailler. Ben, là, on est parti sur le fait que je suis éclairagiste, mais je fais aussi beaucoup de sons. Donc, je peux travailler ma multidiffusion avec mes envois sur toutes mes enceintes de diffusion et caler mes niveaux, tout ça. Je peux arriver avec mon échafaudage sur le plateau et régler des lumières ou réimplanter des lumières. Et voilà, tout ce qui est technique et où je prends la place et où je peux faire du son. Où les gens, j'ai besoin de ce temps-là où je suis tranquille dans le théâtre. Donc le matin, en général, c'est pour moi. Et après, l'après-midi, c'est des temps de répétition, où là, on construit ensemble, où ça se monte au plateau, où ils répètent du texte, mais moi, je peux aussi avancer ma construction en lumière, en son, en vidéo. Voilà. Après, ça, c'est la journée type création. Journée type régie de tournée. Nous, on arrive souvent la veille du spectacle pour pouvoir travailler tôt le matin. Donc, on se déplace, on fait nos journées de déplacement et de route la veille. Et le jour du spectacle, on arrive tôt le matin, on fait les réglages lumière, on demande toujours une préimplantation des lumières. On fait les réglages. Une fois qu'on a fait les réglages, on fait les raccords conduite lumière. On fait les balançons. Et ensuite, on fait un temps de raccord ou filage selon les besoins du spectacle. Et le soir, ça joue.
Et ça se passe dans quel ordre ? C'est vous travaillez pour une compagnie ou c'est un metteur en scène qui vous appelle ou vous travaillez pour un théâtre ?
Alors, un peu tout. Je travaille avec des compagnies depuis des années, donc toujours les mêmes que je suis, en création, en régie. Il m'arrive de faire des remplacements aussi de personnes, donc de rattraper une conduite. Et là, c'est vraiment que sur de la tournée et un metteur en scène va faire appel à moi. Des fois, c'est des comédiens qui me mettent en contact avec un metteur en scène. Des fois, il n'y a pas de metteur en scène. C'est des compagnies qui travaillent de façon collective sur un projet. Donc, c'est avec les comédiens. Il m'arrive aussi de travailler ponctuellement dans des salles, parce que moi, j'aime bien aussi faire de l'accueil.
Si vous deviez conseiller des études pour arriver jusqu'à ce métier, vous par exemple, c'est quoi votre parcours ?
Alors moi j'ai fait un BTS audiovisuel en son et mon premier poste ça a été au Théâtre du Jour de Toulouse qui est maintenant le Théâtre du Grand Rond, qui était un théâtre, il n'était pas pareil à l'époque, c'était sur 2 étages, c'était une très belle salle et mon premier poste donc ça a été régisseur son et lumière de cette salle. Et en débarquant là-bas, je me suis mise à la lumière et donc je l'ai appris vraiment sur le tas, quoi.
Est-ce compliqué d'être une femme éclairagiste aujourd'hui ?
Alors, non, pas du tout. En fait, les équipes mixtes, ça fait beaucoup de bien. À mes débuts, les équipes de festival, elles étaient particulièrement masculines. Et en fait, des hommes entre eux, c'est un peu combat de coq. Les femmes entre elles aussi, c'est un peu compliqué. Dès que c'est des équipes mixtes, ça fonctionne très bien. Et quand moi j'arrive dans un lieu, des salles municipales, où c'est souvent on est accueilli par des hommes, je pense que c'est même un atout d'être une femme. Ils sont beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus serviables quand on est une femme et qu'on arrive. Et puis c'est pas quelque chose de rare, enfin des femmes éclairagistes, il y en a de plus en plus, ou même des femmes au son. On est de plus en plus nombreuses en fait, donc voilà, ça s'est généralisé et c'est plus. J'ai moins de réflexions sexistes qu'à mes débuts, peut-être aussi parce que je suis plus âgée, mais ça n'existe quasiment plus à l'heure actuelle. Non, ça, je crois que c'est même un atout en fait. On a une autre sensibilité en plus.
Et pour finir cette interview, est-ce que vous auriez un souvenir que vous aimeriez nous partager ?
J'ai, à chaque fois, les premières, c'est toujours des moments hyper émouvants, mais tous, où on arrive au bout du travail, où tout d'un coup on a le retour du public, où on a l'objet fini, c'est toujours quelque chose d'émouvant. Après, il y a des souvenirs de galères où on en rigole après, genre Avignon, on finit d'accrocher le dernier pendard qui était à des tapes en fait qu'on accrochait avec des colliers et qu'un comédien qui rentre et qui arrache tout le taps, mais juste avant l'entrée publique. Enfin, de toute façon, c'était une installation un peu de briques et des brocs. Et où là, à 5 minutes d'entrée du public, il faut qu'on trouve une solution pour tout réaccrocher parce qu'il a tout arraché. Voilà, il y a des souvenirs comme ça qui nous font rigoler. De toute façon, bah, je suis fan de mon métier et c'est quand même que des moments de bonheur. Hein. Même les moments qui sont compliqués à gérer parce qu'il y a de l'urgence, parce que le show must go on et qu'il faut qu'on arrive à des solutions. Bah, c'est des moments intenses de réflexion, de création, de créativité.
C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Amandine Jérôme d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Bah, de rien.
Radio Sous les Projos,
l'émission du spectacle vivant
sur Web Radio Sancernin.
Tout de suite, nous laissons la place à Augustine qui prête sa voix à la première scène de la pièce Tous des oiseaux dans sa chronique Les voix du théâtre contemporain.
Wajdi Mouawad est un dramaturge libano-québécois. Il est réputé dans le monde pour ses pièces. Les plus connues sont regroupées dans sa tétralogie Le sang des promesses. En 2018, il sort une nouvelle œuvre intitulée Tous des oiseaux, parlant de l'histoire d'amour d'un juif et d'une musulmane qui tourne au drame. Je vais faire la lecture de la scène 1 du premier acte où a lieu la rencontre entre Eitan et Warida, les deux personnages principaux. 1. Oiseau de beauté. 1. L'impeccable harmonie du hasard. Grande salle d'une bibliothèque universitaire de la côte est américaine. Table en bois verni, gens de tous âges, ordinateurs et écouteurs. À une table, une jeune femme travaille, plongée dans les pages d'un livre ancien. Un jeune homme passe, s'arrête net, revient sur ses pas et arrache le livre des mains de la jeune femme. Elle se lève, hébétée. Le jeune homme examine le livre avec étonnement. Il la regarde, réalise ce qu'il vient de faire, lui tend le livre. Eitan, pardon. La jeune femme reprend le livre, s'assoit. Le jeune homme s'en va. Tant. Le jeune homme revient. Eitan, je peux vous déranger ? Elle ôte ses écouteurs. Eitan, vous allez peut-être me prendre pour un dingue, mais ça fait 2 ans que je vous cours après sans savoir qui vous êtes, combien vous êtes ni à quoi vous ressemblez. Comment vous expliquer ? Bon, au-delà du fait qu'ici, c'est le campus de mon université, je viens toujours travailler dans cette bibliothèque. Et même si New York en compte beaucoup d'autres tout aussi magnifiques, je ne mets plus les pieds ailleurs à cause d'une coïncidence qui dure depuis 2 ans. Vous n'allez pas me croire. Je vous raconte. Je vous raconte ? Je vous raconte. Depuis que je viens ici, dans cette immense bibliothèque, de cette immense université, de cette immense ville, je n'ai cessé de trouver ce livre sur les tables où je m'installais au hasard, sans jamais, jamais rencontrer la personne qui l'empruntait. Il saisit le livre. Kitab Wafayat Alayan, dictionnaire biographique d'Ubu Labas Aman Ibn Kalikan. Je ne sais pas si je prononce bien. N'allez surtout pas croire que je sois superstitieux. Je ne suis pas superstitieux. Et pas une seule fois, au cours de ces 2 années, j'ai tenté de lire la récurrence de cette extraordinaire coïncidence, un signe kabbalistique, ou quoi que ce soit de ce genre. Mais à la longue, ça devenait dingue. Il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque de cette université. Beaucoup de tables, une 50aine pouvant accueillir 12 personnes, et qui, certains jours, signifie 600 individus. Si chacun consulte 3 livres avec l'obligation, comme Monsieur Wayne John Jackson nous le rappelle sans arrêt, de ne pas les replacer dans les rayons nous-mêmes, mais de les laisser aux soins des préposés, cela fait pas loin de 2000 livres abandonnés sur les tables. Or, ce livre, Kitab Wafayat Alayan, traduit en anglais par William McGuggin et imprimé à Paris en 1842, cette bibliothèque n'en possède qu'un seul exemplaire. Ce n'est donc pas seulement le même titre que par hasard je retrouve sur une table, ou au hasard je choisis de m'installer, mais le même objet livre. Vous comprenez ? Déjà, la probabilité de retomber sur un même titre est mince, mais que, sur les 634 fois où je suis venue ici, cela me soit arrivé 592 fois, alors que je ne m'assois jamais à la même table, jamais au même jour, selon les heures les plus diverses, c'est... comment dire ? Ahurissant, non ? Toutes les probabilités existent, me diriez-vous. C'est vrai, mais certaines sont plus rares que d'autres. Et plus c'est rare, plus c'est beau. L'impeccable harmonie du hasard, comme le dit Naji Abu Amra, mon professeur de statistique. Restait une donnée à clarifier. Est-ce que ce livre était laissé à chaque fois par des individus différents, ou au contraire toujours par la même personne ? Pour la première hypothèse, on est dans le monde de belles coïncidences. Pour la seconde, on verse dans celui des grandes harmonies. Et si vous deviez être cette personne ? Alors je devrais remettre en question ma vision du monde.
Je suis un sceptique qui n'a jamais cru en rien. Pas même au nihiliste, pas même un matérialiste. Disons plutôt un objetiste, pour qui tout est objet et qui ne supporte pas l'idée de se laisser aller à des rêveries inutiles. Mais à l'instant où je vous ai vu avec ce livre, tout s'est mis à trembler. Et je crois bien avoir perdu le contrôle de mon claustrum, de mon putamen et mon cortex singulaire antérieur, qui sont les régions indispensables à la production de fantasmes par un cerveau normalement constitué. Mais tous les fantasmes que mon cerveau pourrait produire n'arrivent pas à la cheville de cette seconde où vous vous êtes enfin révélé à moi, après ces deux longues années. Pour être clair, si l'impeccable harmonie de la coïncidence, c'est vous, il ne me reste plus qu'à renier mes convictions et à croire aux horoscopes, à l'invisible, aux anges, aux extraterrestres qui nous auraient fabriqués en laboratoire, et faire comme tous ceux-là qui, croyant à la magie et voyant les hasards dans des signes, le destin, Dieu et autres bêtises du même genre, ne sont que des naïfs, des faibles, des simples d'esprit.
Radio Sous les Projos,
l'émission du spectacle vivant
sur Web Radio Saint-Sernin. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé à ce premier numéro de Radio Sous les Projos.
Et merci à toi, cher auditeur, auditrice, de nous avoir confié tes oreilles.
Les projos s'éteignent et se rallumeront sur
de nouvelles scènes.